abrège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, je... Oui, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Je cherchais tout à l'heure quels étaient mes tout premiers souvenirs de vitesse. Si je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous auriez à me répondre? Peut-être sur un vélo, cheveux au vent, avec ce moment où on lâche le guidon pour la toute première fois. Ou alors en voiture, à l'arrière, coincé entre deux valises, les yeux rivés sur la route qui défile à travers la vitre. La vitesse, c'est quelque chose d'assez insaisissable, mais ici et aujourd'hui, elle va nous rappeler que le temps file, puisque parfois, comme sur un circuit, tout se joue en une fraction de seconde. Aujourd'hui, on va vous parler de vitesse, mais surtout, on va plonger dans une histoire de rivalité, de respect et d'une passion qui dépasse les limites des circuits. Jacques Morin est avec nous pour nous parler de son spectacle conférence d'Imola. À Imola, mon histoire d'une rivalité, un récit où Prost et Senna ne sont pas seulement deux pilotes, mais deux hommes face à leur doute, leur victoire et leur tragédie. Bonjour Jacques et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va ensemble revisiter des souvenirs, les vôtres.
Bonjour à tous. C'est
bon, super, on vous entend. Donc on va revisiter dans quelques instants des souvenirs, les vôtres, ou ceux même que l'on va faire découvrir pour les plus jeunes qui nous écoutent. Juste après notre première pause musicale, on retrouve évidemment aussi la revue de presse du Haut-Anjou puisque nous sommes lundi. Ce sera juste avant de découvrir une nouvelle école Montessori qui a ouvert ses portes au Lyon d'Angers il y a peu, c'était en septembre 2023. Il s'agit de l'école Petit Dôme. Anne-Sophie et Florian nous la présenteront donc en seconde partie d'émission. L'occasion aussi d'annoncer que l'école fera ses portes ouvertes le 1er février. Et donc on terminera cette émission avec la Ligue des droits de l'homme et c'est Loïc Bedouet, toujours en phase avec l'actualité, avec qui on aura le plaisir de conclure cette émission. Bienvenue à vous, amis auditeurs, je suis Margot et en fait je suis très contente de commencer cette semaine avec vous. C'est votre émission quotidienne, l'agité du local qui commence. Et je vous le disais, nous sommes donc en très bonne compagnie aujourd'hui puisque nous sommes avec Jacques Morin, auteur de la conférence spectacle d'Imola à Imola, mon histoire d'une rivalité que vous jouerez le 1er février au bistrot de Saint-Pierre-sur-Èvre. Alors Jacques, vous êtes comédien, metteur en scène, technicien, animateur radio et maintenant aussi auteur d'une conférence spectacle. Alors comment est-ce que vous pourrez peut-être résumer votre parcours artistique et celui qui vous a conduit à cette conférence d'Imola à Imola?
Tout d'abord, moi je suis... je me définis comme quelqu'un de théâtre en fait. Je suis un gars du théâtre depuis très longtemps, et depuis 1978 déjà. Et puis j'ai toujours aimé ça. Et en même temps que j'aimais le théâtre, il y a eu l'arrivée de l'F1 en fait, enfin des courses mobiles. J'ai toujours adoré ça aussi. Et ce projet, c'était la possibilité de faire les deux en même temps en fait, tout simplement. Voilà.
Cette conférence spectacle sur le duel, donc on le disait, Prost-Senna, est le premier projet de votre compagnie. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet si emblématique pour commencer cette toute nouvelle aventure dans votre carrière ?
Eh bien, justement parce que d'abord, c'est un sujet que j'ai toujours suivi. Donc, quelque part, il y a une maîtrise, donc ça me rassurait déjà pour faire ça. J'avais envie de parler de cette histoire parce qu'elle résonne chez moi, parce que d'une part, de ces deux passions, que ce soit en même temps d'être sur scène et puis de parler de voitures de course, en fait, tout simplement, enfin de course, mais aussi de bonhomme. Parce qu'en fait, le plus important, c'est les bonhommes. C'est pas tellement de se dire « Ah, c'est la voiture qui va la plus vite » ou si... L'intérêt, c'est vraiment d'avoir cette... de parler de cette confrontation qui est un peu universelle, en fait. On la retrouve dans plein de domaines. Et à la fois, ça a été très violent entre les deux et en même temps, plein de respect.
Et alors c'est ça que je trouve intéressant, puisque vous décrivez cette rivalité comme un véritable drame shakespearien. Qu'est-ce qui pour vous justement rend ce duel-là particulièrement fascinant et universel, même pour ceux qui ne suivent pas la Formule 1?
Justement parce qu'en fait on retrouve ça un peu partout en fait. C'est de l'émotion. Pour moi, le théâtre, c'est de l'émotion. On est au théâtre, on ressent des choses, on écoute une histoire. On peut le faire à la radio aussi. Et puis, c'est des émotions qui vont nous traverser parce qu'on va ressentir quelque chose. Cette histoire si forte, Elle est universelle justement parce qu'elle transmet ses émotions.
Vous allez traverser un petit peu cette histoire avec en suivant une trame chronologique. Il y aura même des projections, des manipulations de circuits miniatures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez conçu justement cette mise en scène pour captiver le public et utiliser en fait finalement différents outils pour raconter l'histoire ?
Alors, je suis parti vraiment au départ sur la base de la conférence, c'est-à-dire c'était un peu le squelette. Donc, bêtement, c'est un PowerPoint. Hein, voilà. On va suivre un PowerPoint qui est, lui, effectivement chronologique, même s'il y a des retours retours un peu dans le temps. Mais on suit quand même une trame effectivement chronologique. Mais à partir de là, effectivement, c'est l'occasion pour moi de manipuler des petites voitures parce que, en fait, moi j'aime bien rester. Vous me rappelez que j'avais aussi 9 ans, 10 ans et que j'aimais bien jouer aux petites voitures et ça me permet de le faire devant les gens. En plus, c'est assez jouissif. Et puis voilà, bon, ça permet aussi d'avoir des images pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Pour ceux qui connaissent, ben, ça leur rappelle quelque chose, forcément. Mais aussi, et c'est très important, c'est-à-dire que cette histoire-là, j'ai voulu la construire pour les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, les gens qui ont connu cette histoire, qui la connaissent très bien aussi, et ben, c'est de mon point de vue à moi, ce n'est pas forcément le leur. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, eh bien, voilà, c'est de découvrir, quoi. Donc, l'image, le PowerPoint, pour moi, me semblait très intéressant. Et puis, ça permet de digresser, de changer et puis de faire de l'humour parce que c'est le plus important aussi.
Et alors, Jacques Morin, justement, je trouve ça très intéressant. Vous vous adressez donc aussi à ceux qui ne connaissent pas ce duel mythique, ces deux personnalités, Alain Prost et Ayrton Senna. Ce sont deux personnalités qui sont vraiment au cœur de votre spectacle. Vous avez choisi de présenter justement ces deux figures emblématiques au public. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quels sont peut-être les aspects de leur personnalité ou de leur parcours que vous avez souhaité tout particulièrement mettre en avant pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout cette partie de l'histoire ?
Alors, j'ai mis en avant ce que je percevais, parce que je ne les rencontrais ni l'un ni l'autre. Je ne les connais pas du tout, évidemment. Je ne les ai jamais connus, jamais rencontré Alain Prost, jamais rencontré Ayrton Senna. Mais moi, ce que j'en connais, c'est ce que je lisais dans la presse spécialisée à l'époque. C'est-à-dire que je dévorais la presse spécialisée. Et c'est tout ça, en fait, qui a construit mon récit. Les bouquins, tout ce qui a été écrit sur eux. Et moi, je m'en suis fait chacun, l'un et l'autre, des personnages, si vous voulez. Alors évidemment, ça se recoupe. Hein. On a des grands traits que tout le monde est à peu près d'accord. Sur quelques subtilités, il y a des avis divergents sur l'un ou sur l'autre. C'est mon histoire, c'est le sous-titre, hein, mon histoire d'une rivalité, parce que c'est ce que moi, à l'époque, je ressentais. Je pourrais avoir un avis différent maintenant, mais voilà, j'ai voulu garder l'œil que j'avais à l'époque, quoi, sur ce ressenti.
Justement, pour l'auditeur, là, peut-être qui nous écoute et qui ne connaît pas du tout ces deux personnalités, cette histoire, est-ce qu'on peut résumer en quelques mots, un petit peu retracer en quelques mots ce parcours de ces deux hommes qui se sont affrontés tout en restant respectueux ? Ça, c'est important de le préciser, c'est quelque chose de très nuancé, la relation entre ces deux hommes-là et leur parcours sportif.
Alors, respectueux, pas toujours. Hein. À un moment, c'était très dur, mais c'était très respectueux au moins au départ et sur la fin. C'est entre les deux qu'il y a eu des moments un peu délicats, c'est ce que j'explique un peu. Il faut savoir que c'était... la particularité, c'est qu'en F1, comme dans beaucoup de sports, hein, vous avez des groupes de 3-4 personnes hein, qui dominent sur une période donnée, sur 4-5 ans, vous avez toujours, ou même 10 ans. Et puis, il y a toujours un qui est un peu au-dessus. Et puis là, à la fin des années 80, la particularité, c'est qu'entre Prost et Senna, on n'a pas réussi à dire qui était le meilleur. C'est-à-dire que les deux étaient au même niveau. Et c'est ce qui a créé cette rivalité, sachant que Prost était là un petit peu avant. Hein, il est arrivé quelques années auparavant. Et c'était le modèle, en fait, pour Senna, hein, qui tentait de l'élève essayait de battre le maître, même s'il n'a jamais été son élève. Voilà. Et donc, c'est... Ces deux personnalités très différentes, vraiment très différentes, ont réussi d'une part à se dompter l'un et l'autre, chacun à leur tour en fait.
On parle là aussi d'une tragédie. Forcément, votre spectacle s'achève sur le 1er mai 1994, donc le jour de la mort tragique d'Ayrton Senna. Comment est-ce que vous abordez cet événement clé dans la conférence, tout en respectant du coup cette démarche de spectacle et en se disant que finalement, on ne se base pas seulement sur les faits, mais on raconte aussi quelque chose d'universel?
Bien, oui, c'est une tragédie. Pour moi, c'est une tragédie. Quand je me suis attelé à ça, je me suis dit, bon, ben, partant du théâtre, et forcément, c'est une tragédie parce que ça commence avec des scènes d'exposition, comment on démarre, et puis plus ça va, plus ça monte. Et au moment où on pense que ça va aller mieux, eh bien, il y a la tragédie qui arrive et la mort d'Ayrton Senna. Et forcément, sur l'humour que je mets tout au long en fait de la conférence, là on l'efface très clairement. On revient du théâtre en fait.
Après des années dans les coulisses, vous revenez sur scène, vous, donc avec ce spectacle d'Imola à Imola, mon histoire d'une rivalité, que vous jouerez donc le 1er février au bistrot de Saint-Pierre-sur-Rève. Qu'est-ce que ça représente pour vous sur le plan personnel et artistique de remonter sur scène, on peut le dire comme ça, et puis de le jouer dans ce cadre-là qui est quand même assez unique dans notre département?
Alors en fait, la conférence, elle a été créée en 2019 pour Circonférence, qui était un festival organisé par Le Carré. Et puis ensuite, bon, elle a été jouée un petit peu de loin en loin. Et puis j'ai eu d'autres projets, donc je m'en suis un petit peu éloigné. Et puis là, je veux vraiment y revenir. J'ai essayé aussi d'aller au Festival du journalisme qui aura lieu la semaine prochaine également à Laval. Ça ne sera pas pour cette année, peut-être que l'année prochaine, on essaiera en tout cas, parce que ça cadre bien. Voilà. Après, à Saint-Pierre sur Rève surtout, c'est pendant l'été, effectivement, être au bistrot, qui est vraiment, alors c'est un lieu super, hein, bien sûr, je pense que beaucoup des auditrices et auditeurs connaissent Saint-Pierre sur Rève. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment d'y aller, c'est génial, le bistrot, c'est vraiment une ambiance extra, et c'est des gens super, voilà, tout simplement. Donc ça fait vraiment très très plaisir d'aller dans ce lieu, puis c'est la première fois que je serai vraiment très très confiné, même si j'avais déjà joué dans un bistrot à Saint-Nazaire et c'était le jour avant le confinement, juste c'était le dernier spectacle et ensuite c'était fermé et là c'était aussi très très proche des gens, mais de toute façon c'est un spectacle qui se joue en proximité.
Et donc vous le jouerez donc le 1er février au bistrot de Saint-Pierre-sur-Rève. On peut rappeler les horaires, vous commencez à jouer à partir de 20h30, mais il y a de la restauration disponible sur place à partir de 19h.
C'est ça, exactement. Donc, vous pouvez venir. Voilà, il n'y a pas de réservation. C'est comme ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas énormément de place. Hein. Attends, venez assez vite quand même. Voilà.
Et pour les moins chanceux qui n'auraient pas forcément l'occasion de venir vous voir le 1er février, il y a possibilité quand même de retrouver, de suivre un peu vos actualités sur le site du garage de Château-Gontier.
Voilà, exactement. Si je mets, à la prochaine, je ferai certainement une petite info sur le site du garage de la gare.info, forcément. Et puis, on en reparlera également dans la presse, forcément. Bien sûr.
En tout cas, merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle une toute dernière fois, votre conférence spectacle d'Imola Imola, mon histoire d'une rivalité, sera donc jouée le 1er février au bistrot de Saint-Pierre-sur-Rève. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir passé ce moment, ce début de semaine en notre compagnie.
Merci à vous. Au revoir.
Allez, votre émission quotidienne continue dans quelques instants avec la revue de presse du Haut-Anjou. Mais avant, on écoute des paroles qui grattent un peu sur une mélodie très pop et radiophonique. En tout cas, elle me plaît bien. C'est un vrai piège pour les oreilles. Le titre d'Elena, Mauvais Garçon. Écoutez.
Mauvais garçon me rabaisse. Me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien. Qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon dit qu'il m'aime. Mais il voudrait tout changer chez moi, jusqu'à ma façon d'être, de sortir et de rire aux éclats. Mauvais garçon me rabâche, tout est de ma faute si je l'écoute. Il veut pas que j'aille en boîte, que je parle, que je danse avec d'autres. Mauvais garçon me dénigre, me donne tous les noms d'oiseaux. Mais les oiseaux, eux sont libres, et son amour est une prison. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mon mauvais garçon. faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mauvais garçon, tiens les fils. C'est moi le pantin. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un mauvais garçon, je les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Il faut que j'arrête de voir mauvais garçon. J'ai retrouvé l'amour de moi qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Mais moi je reste. Pourquoi je reste avec mauvais garçon? Faut que j'arrête. On m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon.
Et nous voilà arrivés au moment de la revue de presse du Haut-Anjou. Cette semaine, cap sur Château-Gontier, où Marine de Chef Fontaine redonne vie au fauteuil fatigué dans son atelier de tapisserie niché au cœur de Coccinelle Tissu. Après une décennie dans le commerce, Marine, 36 ans, a choisi de suivre son rêve d'enfant, travailler de ses mains, manipuler les matières et s'épanouir dans l'artisanat. Alors avec détermination, elle a racheté l'atelier en janvier dernier, après un CAP en alternance et une formation auprès de l'ancien propriétaire. Dans son petit coin de paradis, Marine transforme des sièges usés en pièces uniques, mêlant savoir-faire traditionnel et amour du détail pour une clientèle attachée à la rénovation et à la transmission d'objets précieux, un bel exemple d'audace et de passion locale. Ensuite, on se rend à Segré, l'émotion est vive. Après le décès de Paco, un sans-abri de 56 ans retrouvé mort dans les toilettes publiques de l'esplanade Antoine Clément le 15 janvier, connu pour sa gentillesse et son respect, Paco était originaire de Sainte-Gemme-d'Andigné et avait choisi de rester dans la commune malgré sa situation précaire. Très apprécié des habitants, il recevait régulièrement des dons et des gestes de solidarité comme des repas ou des vêtements. Les internautes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, témoignant de leur tristesse et de leur incompréhension face à cette tragédie. Les bénévoles de l'association Saint-Vincent-de-Paul, qui tentaient de l'aider, témoignent eux et culpabilisent de leur impuissance face à ce drame. Justement, ce drame est une première dans la commune et met en lumière la difficulté d'héberger les sans-abri moins mobiles, de plus en plus nombreux dans le secteur. Pour conclure cette revue de presse, direction Loiret maintenant, où un comptage nocturne de lièvres par le groupement d'intérêt cynégétique de la Verzée a réservé une surprise inattendue. En plus de constater une légère baisse de la population de lièvres cette année, un membre du GIC affirme avoir aperçu deux loups dans une plaine près de la route du Bourdiré. Une observation rare qui, bien qu'intrigante, reste à confirmer par l'Office français de la biodiversité. Pour en savoir plus sur cette possible présence de loups dans la région et découvrir l'ensemble des actualités locales, eh bien retrouvez le Haut-Anjou en kiosque chaque vendredi ou en version numérique sur lehaut-anjou.fr, un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour rester connecté à notre territoire. L'agité du local sur l'autre radio. Voilà, on prend maintenant un grand bol d'air avec Anne-Sophie et Florian. Ils nous parlent tous deux de l'école Montessori Petit Dôme au Lion d'Angers où la nature devient la meilleure des pédagogues. Une approche pleine de promesses qui vous ouvre ses portes le 1er février. Écoutez.
Anne-Sophie Billet, je suis éducatrice de jeunes enfants et éducatrice Montessori à AMI et actuellement directrice de l'école Petit Dôme au Lion d'Angers.
L'école Petit Dôme utilise la pédagogie Montessori, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement ?
Alors elle se différencie des méthodes plus traditionnelles que l'on connaît par le fait qu'elle respecte le développement naturel de l'enfant. C'est une pédagogie qui s'adapte à l'enfant, l'environnement est pensé pour répondre aux besoins de l'enfant et l'enfant a la liberté de choix dans un cadre afin de répondre à ses besoins en fonction de son rythme. L'exemple qu'on aime bien donner, c'est on n'attend pas d'un enfant qui marche à 12 mois. Il y en a qui vont marcher à 10 mois, il y en a qui vont marcher à 16 ou 18 mois. Et bah, il en va de même pour tous les apprentissages. Et donc, dans notre école, on respecte le rythme de chacun. Le respect du développement naturel de l'enfant, chacun son rythme, mais c'est également de pouvoir permettre à l'enfant d'être autonome, en fait. C'est l'enfant qui est acteur de son développement. Donc, on lui offre un environnement qui est adapté et où, dans cet environnement, en fait, il peut faire les choses par lui-même. Et en faisant les choses par lui-même, bah, du coup, il arrive à faire. Il a son estime de lui qui se construit, sa confiance en lui qui se construit. Et il a aussi envie d'aller, du coup, après, vers les autres pour aider les autres. Donc, c'est vraiment... l'autonomie est vraiment très importante dans la pédagogie Montessori.
Vous mettez également l'accent sur la pédagogie par la nature. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement dans le quotidien des élèves à l'école Petit Dôme ?
Concrètement, ça implique que la cour de récréation n'est pas une cour de récréation, c'est un jardin. Ça implique que les enfants passent beaucoup de temps dehors. C'est notamment une journée où on est complètement dehors tous les vendredis. Et au quotidien, ils passent énormément de temps dehors. Si la météo le permet, les enfants mangent dehors, dorment dehors. Et quand bien même là, aujourd'hui, c'est une météo très pluvieuse, et ben voilà, ce matin, on était dehors, on a profité de la pluie et de ce que nous offre la pluie pour découvrir la nature. Donc l'idée, c'est de profiter de l'environnement qui est autour de nous et d'être respectueux de l'environnement qui nous entoure.
L'école Petit Dôme, c'est une toute nouvelle école qui s'est installée, donc je le disais, au Lyon d'Angers. Quelle tranche d'âge est-ce que vous accueillez? Et alors, comment est-ce que cette pédagogie s'adapte à tous les niveaux, finalement?
Alors, la pédagogie Montessori, la particularité, du coup, c'est que ce sont des environnements qui sont pensés en fonction des stades de développement de l'enfant. Et donc, c'est inter-âge. Notre école est une école qui est ouverte pour les enfants de 3 à 6 ans.
L'école Petit Dôme a ouvert en septembre 2023. Comment est-ce que s'est construit ce projet? Qui est-ce qui l'a porté?
Moi, c'est Florian. Je suis coprésident de l'association de l'école. Et je suis le papa de jumeaux qui sont du coup à l'école. Ils ont 4 ans. Le projet est né grâce à Nathalie et Richard Gauthier. Sur le site, en fait, nous, on loue une classe dans un bâtiment en ossature bois. Et sur ce lieu, il y a aussi une crèche Montessori. Qui a été créé par Nathalie et Richard. Et leur rêve, c'était de pouvoir également créer une école pour la suite, après 3 ans en fait. Ils ont créé cette crèche sur ce lieu-là et leur rêve, c'était aussi d'ouvrir une école, ce qu'ils ont réussi à faire justement en 2019 en fédérant des parents qui avaient leurs enfants à la crèche. On est 4 familles à avoir démarré le projet avec eux, en fait, à leur avoir fait confiance. Et puis, au fil de l'eau, on a recruté des nouvelles familles qui sont venues, pas non plus que pour la crèche, mais aussi que pour l'école.
Et donc, le 1er février, ce seront les portes ouvertes de l'école Petit Dôme au Lyon d'Angers, l'occasion de vous rencontrer et de venir prendre des renseignements, de venir découvrir un peu plus cette pédagogie.
Oui, tout à fait. Ouais. On sera là de 10h à 15h. On a des ateliers prévus. On a un atelier de musique qui est organisé par une maman à 10h30. On a 2 lectures de contes à 11h et 14h également. Et on a un atelier de fabrication de bombes à graines qui est aussi organisé par 2 mamans à 11h30 et 14h30. Il y a une collation également qui est offerte pour toutes les personnes qui souhaitent venir découvrir ce que l'on fait à l'école Petit Dôme.
Et alors peut-être pour terminer, où est-ce que l'on peut vous retrouver au Lyon d'Angers? Puis peut-être un numéro sur lequel on peut vous contacter si on a besoin de renseignements ou si on ne peut pas se rendre précisément aux portes ouvertes le 1er février.
Vous pouvez venir nous rencontrer au 6 impasse Jean Bertin sur la zone d'activité La Sablonnière au Lyon d'Angers. Pour nous contacter, c'est au 07 69 84 58 30. Pour le mail, c'est association.écolepetitdôme, E-C-O-L-E. PETITDHO2ME @gmail.com.
L'ensemble des coordonnées de l'école Petit Dôme sont disponibles sur notre site internet au descriptif de l'émission du jour. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. C'est bientôt la chronique du jour et nous serons donc avec Loïc Bedouet de la Ligue des droits de l'homme. Mais avant, on embarque pour un autre voyage. J'y pensais ce matin, il m'est revenu de quelques années en arrière quand même. C'est le voyage que nous propose Grand Corps Malade. Il nous emmène sur les rails avec les voyages en train, une destination toujours pleine de poésie. Écoutez.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de typex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrains. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et y'a les aventuriers qu'enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Y'a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, y'aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.
On arrive au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Loïc Bedouin est avec nous aujourd'hui. De quoi vous allez nous parler? Bonjour Loïc.
Eh bien aujourd'hui, je vais parler du recensement qui commence le 16 janvier qui vient là.
Okay. On vous écoute.
Oui, effectivement, depuis le 16 janvier, 9 millions de Français, dont bien entendu donc des Mayennais, sont invités à répondre à la campagne annuelle de recensement. Le recensement, c'est un bien public et y participer est un acte civique. Grâce à des chiffres, une image fidèle de la population et de sa répartition locale permet une connaissance fine et nécessaire, notamment à la gestion des services publics et à l'aménagement du territoire. De même, ces données des différents recensements sont des outils particulièrement utiles pour les sociologues dans le cadre de leurs recherches.
Les recensements ne sont pas nouveaux, alors pourquoi la LDH s'intéresse plus particulièrement à celui-ci?
Eh bien parce qu'il y a une nouveauté. À l'occasion de ce recensement, il y a 3 nouvelles questions sont posées, dont une sur l'origine géographique des parents. En clair, il est demandé si vos parents sont nés dans un pays étranger et si oui, lequel. Au travers cette question, qui certes peut paraître anodine, on sous-entend qu'il y aurait 2 sortes de Français. Or, quand on est Français. Point. Et à ce titre, il est citoyen à part entière, avec ses droits, avec ses devoirs, qui incombent d'ailleurs à chacun. Et l'origine des parents ne peut en aucun cas entrer en ligne de compte dans ce domaine.
La Ligue des droits de l'homme y voit donc un danger.
Oui, bien entendu. Le risque est bien d'offrir une base pour des politiques qui divisent et discriminent. La question sur le pays de naissance des parents fera qu'on pourra désormais compter séparément, d'une part, ceux dont les parents sont nés en France, et d'autre part, ceux dont les parents sont nés ailleurs. Cette question est un pas de plus pour traiter différemment, dans les politiques publiques, ceux que certains appellent les Français de souche et tous les autres qu'ils excluent de leur préférence nationale, comme ceux qu'ils qualifient de Français de papier, qui seraient sans doute les remplaceraient. On le voit bien, Français de souche, préférence nationale, français de papier, comment ne pas passer alors à la politique xénophobe et raciste préconisée par le Rassemblement national. À titre d'exemple, pour illustrer mes propos, dernièrement, une municipalité d'extrême droite a demandé à l'INSEE de lui fournir le nombre de personnes d'origine étrangère bénéficiant de son parc de logements. Ceci incluait donc les personnes françaises dont les parents sont nés d'origine étrangère. Le recensement actuel ne collecte pas ce type d'informations. Mais demain, si elle existait, est-ce qu'on la donnerait à cette mairie? Et pourquoi faire? Dans quel but? Serait-ce demain un critère d'attribution pour un logement social, par exemple? Mieux vaut se poser la question dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.
Mais donc, s'il y a danger pour l'avenir, comme le dit la LDH, que faire aujourd'hui?
Eh bien, alors que toutes les réponses à chaque question du recensement INSEE sont obligatoires, ce n'est pas le cas pour cette nouvelle question. Il n'y a donc pas obligation de répondre, c'est facultatif. La LDH appelle donc tous les citoyens recensés à cette campagne de ne pas répondre à cette question, quel que soit le lieu de naissance de ses parents, y compris s'ils sont nés en France. L'organisation concrète, d'autre part, du recensement relève des municipalités. Les LDH de la Mayenne vient d'envoyer un courrier au maire pour que le caractère facultatif à cette question soit très clairement exprimé à chaque personne recensée pour qu'elle puisse y répondre en connaissance de cause. Quelle politique réclame la collecte de cette information auprès de toutes les populations et dans tous les territoires? La question reste posée et elle n'est sans réponse. Les risques sont connus, les bénéfices attendus, eux, ne le sont pas. Déclarer le pays de naissance de nos parents est dangereux, inutile et inacceptable.
Merci Loïc d'avoir abordé cette thématique aujourd'hui dans l'émission. À bientôt.
Merci.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jacques Morin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Loïc Bedouet. Et j'ai quand même aussi une pensée pour Maxime qui, à son tour, commence sa semaine le thermomètre en bouche. On lui souhaite de bien se reposer surtout et de nous revenir avec son sourire que l'on aime bien. On est lundi, la soirée commence sur nos ondes plutôt musicalement à 19h avec votre émission Solénoïde qui, comme chaque semaine, vous propose une première soirée à base de musique imaginogène. Et ça continue ensuite à 20h avec la discothèque de Maxime. Justement, on plonge ce soir dans ces musiques coup de cœur qui donnent de la motivation pour tenir jusqu'à vendredi. Je crois qu'on peut se dire à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Milan Bonnel, auteur du roman De sang et d'ocre, son tout premier roman policier dont l'intrigue se déroule en Mayenne. D'ici là, prenez un instant pour vous demander quelle est la dernière chose qui vous a vraiment fait rire. Cherchez-la, retrouvez-la et laissez-la éclore à nouveau. Cela donne de l'élan, je crois, pour faire le... bien.
Bon, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, bah, c'était bien, hein.